nous entendrons quatre communications cet après-midi, notamment parce que Adèle Sueur, donc qui est dans le programme, s'est excusée, a des problèmes de santé, donc elle ne peut pas être là. Donc la première personne qui va intervenir aujourd'hui, donc c'est Pamima Guyot-Sioneste, donc dont la communication s'intitule « Le problème du consentement des femmes à l'oppression hétéropatriarcale et le tabou de l'oppression entre femmes, de nouvelles perspectives en philosophie féministe ?» Point d'interrogation. Donc Pamima, vous êtes doctorante allocataire en philosophie, vous êtes affiliée donc au LLCP à Paris 8, hein, et votre thèse actuelle s'intitule « Dilemme de la victime, le dilemme de la victime et le problème du consentement à l'oppression », donc clairement quelque chose qui a beaucoup à voir avec ce que vous allez nous présenter maintenant.
Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Je remercie vivement les organisatrices du congrès de me recevoir, car je suis très heureuse de vous parler du problème du consentement des femmes à l'oppression hétéropatriarcale et du tabou de l'oppression entre femmes, afin d'évoquer de nouvelles perspectives en philosophie féministe. Depuis les années 2000, dans les sociétés occidentales, le consentement est devenu une notion centrale autour de laquelle s'articulent les controverses féministes et antiféministes sur la possession de son corps, selon l'expression de Geneviève Fraisse, dans des cas allant du travail du sexe au port du foulard, en passant par la définition des violences sexuelles. Comme le montre Ferrarese, ce débat, qu'il considère que le consentement est une notion politique ou morale, utile ou non, alimente une nouvelle grammaire du consentement qui participe à en faire un concept central dans la définition de la subjectivité occidentale. Cette grammaire établit une procédure implicite dans laquelle, pour être valide, le consentement doit être le reflet des intérêts bien compris de la personne qui le donne. Chez les féministes, cette aptitude à consentir trace une frontière entre les femmes qui sont considérées comme des sujets, autrement dit, celles qui poursuivent l'agenda politique féministe majoritaire, et les autres, les dupes ou les prisonnières du patriarcat, selon les mots d'Uma Narayan, qui bien souvent sont des femmes non occidentales ou de culture non occidentale, qui sont alors définies uniquement par leur statut de victime-objet, comme l'explique Chandra Mohanty. Avec MeToo, on a vu des femmes adultes, blanches, cis, hétéros, valides, bourgeoises, et qui plus est, autrefois considérées comme féministes, donc des femmes collectivement jugées aptes à consentir, prendre la parole pour tenter de préserver la préséance des hommes. Ces positionnements suscitèrent de profondes interrogations chez les féministes de la nouvelle génération. Comment ces femmes instruites, avec du pouvoir, pouvaient-elles défendre si activement la liberté d'importuner des hommes, à l'évidence contre leur intérêt? Il était clair que ces femmes auraient pu faire autrement, en se taisant tout simplement. Il s'agissait donc bien d'une défense volontaire de l'oppression sexuelle. En se déclarant ainsi complices des agresseurs sexuels, ces femmes donnaient-elles leur consentement à être elles-mêmes opprimées? Si dans les années 80, Mathieu avait défendu contre Godelier que la participation active des femmes à leur oppression, parce qu'elle est toujours extorquée, n'impliquait en aucun cas leur consentement à être opprimées, de sorte qu'elles ne pouvaient jamais être tenues responsables de leur propre oppression, les débats féministes actuels semblent avoir rebattu les cartes en proposant l'usage de notions telles que la soumission volontaire ou la faute morale des femmes complices de leur propre oppression. De fait, ces concepts suggèrent l'idée d'une forme d'adhésion intérieure ou d'une responsabilité de la part de ces femmes. La réduction des inégalités liées au genre en matière d'éducation et la massification de la diffusion des pensées féministes après MeToo a rendu caduque l'idée que des femmes, dans la mesure où elles sont adultes, blanches, bourgeoises et valides, puissent être dupées et encore moins emprisonnées par le système d'oppression hétéropatriarcale. Pour Philippa Melo-Lopez, c'est précisément ce constat qui a poussé certaines philosophes féministes contemporaines comme Nancy Bauer et Manon Garcia à revenir au deuxième sexe de Simone de Beauvoir. En effet, dans cet ouvrage, l'oppression de sexe n'est pas seulement quelque chose que l'on fait aux femmes, mais aussi quelque chose qu'elles se font à elles-mêmes. La question qui se pose alors est : peut-on déduire du fait que des femmes participent activement à leur propre oppression, qu'elles y consentent et ou qu'elles ont une part de responsabilité par rapport à ce qu'elles subissent ? Selon Melo-Lopez, deux types d'interprétations de Beauvoir aboutissent à deux conclusions différentes. La première interprétation de Bauer et Garcia affirme que si des femmes consentent manifestement à leur oppression en s'en rendant complices, on ne peut ni les en blâmer, ni les en tenir responsables. En effet, selon cette interprétation, c'est justement la structure de l'oppression qui pousse les femmes à vouloir se soumettre spontanément. Mais le Lopez souligne alors que cette lecture nous enferme dans une contradiction politique. D'un côté, on comprend que les femmes sont très fortement incitées, voire contraintes, à consentir à leur oppression en adoptant des comportements complices. Et de l'autre, on les exhorte à se rebeller pour en finir avec cette complicité. Pour tenter d'échapper à ce problème, Melo Lopez propose une deuxième interprétation. En faisant droit à l'importance du concept de mauvaise foi chez Beauvoir, elle constate qu'il est possible de condamner les femmes qui adoptent des comportements complices à condition de souligner qu'on ne peut le faire que sur le plan moral. En effet, il ne s'agit pas de les rendre responsables d'une situation d'oppression qu'elles n'ont pas choisie et contre laquelle elles ne peuvent pas lutter, comme Bauer et Garcia appelaient très justement à ne pas le faire, mais de les condamner moralement pour leur mauvaise foi complice lorsqu'elles choisissent d'ignorer le sentiment d'inconfort que leur situation oppressive suscite en elles. Car pour Melo Lopez, c'est précisément cela qu'est la mauvaise foi chez Beauvoir. Cette attitude de déni par rapport au malaise provoqué par la situation d'oppression. Pour le comprendre, selon Melo Lopez, il faut défendre une certaine lecture dite intersectionnelle de Beauvoir. Car dans le deuxième sexe, toutes les femmes ne sont pas dans une même situation. Il y a des femmes enfermées, comme les femmes des harems, les hétaïres grecques et les femmes modernes au foyer. Et celles-là sont complices sans être de mauvaise foi, car elles n'ont pas d'autre choix que d'être dans l'immanence. Mais il y a aussi d'autres femmes, plus ou moins contraintes, qui, elles, peuvent adopter une attitude authentique ou non, en choisissant d'affronter ou non leur malaise face à leur complicité. Selon Melo Lopez, c'est en étant authentique que les femmes se disposent à saisir des opportunités d'émancipation le jour où leur situation le permettra, tandis qu'en étant de mauvaise foi, elles témoignent d'une attitude de démission qui les prépare à participer à leur propre oppression et à celle des autres femmes. Si avec l'interprétation de Bauer et Garcia, on ne comprenait pas bien ce qui, en dehors de la force de leur volonté, allait permettre à certaines femmes de lutter pour s'émanciper, puisque précisément leur consentement était inscrit dans la structure d'oppression, avec l'interprétation de Melo Lopez, on ne sait pas plus ce qui fait que certaines femmes font le choix moral de l'authenticité plutôt que de la mauvaise foi. La lecture dite intersectionnelle de Melo Lopez ne la prémunit malheureusement pas contre l'aporie constitutive du problème du consentement des femmes à leur oppression. En effet, en tirant les conséquences de son interprétation, on s'aperçoit que l'on aboutit à une nouvelle contradiction logique. D'un côté, si on accepte l'idée que la mauvaise foi est compatible avec le concept dit intersectionnel de situation chez Beauvoir, on peut alors aller voir dans le détail des différentes situations des femmes ce qui les a disposées à être authentiques ou non dans leur complicité. On constate alors que le fait de choisir d'adopter une attitude plutôt qu'une autre est compris comme le résultat de déterminations multiples. Pourquoi serait-on alors autorisé à parler de faute morale ? D'un autre côté, si on veut faire droit à l'idée que la mauvaise foi complice est une faute morale en tant qu'attitude existentielle, on comprend que presque toutes les femmes ont le choix d'être authentiques ou non, mais ce faisant, on définit le lieu éthique comme un lieu d'indétermination, aussi minime soit-il. On peut alors légitimement demander « Est-ce véritablement un choix que d'affronter de manière authentique le mal-être que provoque en nous l'oppression ?» Le fait d'ignorer le malaise, de le nier, voire de le dénier, en somme d'avoir une conscience divisée. N'est-ce pas là précisément une conséquence de l'oppression ? Comme l'ont défendu des féministes comme Nicole Claude Mathieu ou Gloria Anzaldúa. Dès la fin des années 1980, Michel Ledeuf soulignait que dans le deuxième sexe, Beauvoir moralise ce qu'elle n'a pas réussi à expliquer. Dans cette lignée, je soutiendrai que lorsqu'il s'agit de femmes qui semblent participer à leur oppression propre, il faut prendre très au sérieux cette hypothèse et en tirer des conséquences plutôt que d'adopter le registre de la faute morale comme nous invite à le faire Melo Lopez. À cet égard, dans le deuxième sexe, le cas des jeunes filles inauthentiques qui adoptent des comportements d'automutilation est éloquent. Beauvoir nous dit que ces manies sadomasochistes sont une protestation face à l'imminence de leur destinée sexuelle de proie passive. Pour autant, ces conduites ne constituent pas un choix de refuser authentiquement leur destin, car pour Beauvoir, elles impliquent une fondamentale mauvaise foi. C'est parce que ces jeunes filles se reconnaissent d'abord comme chères qu'elles font le choix de se mutiler. Leur refus trahit une attitude existentielle de mauvaise foi complice vis-à-vis de leur vocation de femme chère. Suivant l'interprétation de Melo Lopez, en s'automutilant, ces jeunes filles commettent donc une faute morale.
Ici, il devient clair que le registre de la morale pose problème. En effet, si l'on s'intéresse aux études sociologiques et éthiologiques qui retracent la genèse des conduites d'automutilation chez les adolescentes, on constate que les incestes et les abus sexuels subis dans l'enfance sont une des caractéristiques communes des jeunes filles. Lorsqu'on a très tôt été traité comme un objet, se reconnaître comme chair, n'est-ce pas là plutôt un constat forcé plutôt qu'un choix, comme le défend Nicole-Claude Mathieu ? Utiliser la morale pour qualifier la capacité des femmes à affronter avec authenticité leurs sentiments de malaise face à l'oppression nous condamne à rester indifférentes à certains de ces aspects déterminants qui ne sont pas forcément les plus visibles. De fait, comme le souligne avec force Linda Martin-Alkoff dans son ouvrage « Rape and Resistance », les conséquences psychologiques des violences sexuelles et leur impact sur les attitudes et les conduites des survivantes sont encore très méconnues. Et il nous faut mettre en place une épistémologie du viol pour comprendre comment elle participe d'une certaine agentivité située. Aussi, dans la mesure où le deuxième sexe fait l'impasse sur les liens entre les violences sexuelles subies dans l'enfance et les comportements des femmes adultes, adopter la morale beauvoirienne nous compromet d'un point de vue féministe en ce qu'elle menace de les rendre définitivement inintelligibles. Est-ce à dire qu'il faut définitivement renoncer à penser la responsabilité des femmes face à l'oppression hétéropatriarcale ou qu'il est nécessaire d'abandonner l'idée de dénoncer leurs comportements complices ? Pour répondre à ces questions sans retomber dans les pièges aporétiques du problème du consentement des femmes à leur oppression, il nous faut, à mon sens, accepter de repenser les termes du débat à la lumière d'un tabou constitutif des féminismes occidentaux majoritaires, à savoir le tabou de l'oppression entre femmes. En effet, à mon sens, si on ne peut qu'être victime de l'oppression qu'on subit à sa propre échelle individuelle, ce qui implique qu'en ce sens, on ne peut pas consentir à sa propre oppression, on peut néanmoins consentir à l'oppression des autres femmes, soit en opprimant directement soi-même, soit en étant complice de leur oppression. Face à ce constat, il nous faut interroger à nouveau frais. Le fait que des femmes puissent consentir à l'oppression d'autres femmes en étant elles-mêmes des femmes, est-ce à dire qu'elles consentent aussi indirectement à leur propre oppression en se rendant complices de logiques systémiques qui finissent nécessairement par nuire aux femmes en général? Selon la féministe Chicana Norma Alarcón, avant de répondre à des questions liées au phénomène de l'oppression entre femmes, il est d'abord nécessaire d'abandonner l'idée véhiculée par les féminismes anglo-américains majoritaires qu'il existe un dénominateur commun à toutes les femmes, à savoir le fait d'être assignée à la catégorie sociale de femmes. De fait, parce qu'elle est épistémologiquement pensée comme une catégorie d'opposition uniquement avec certains hommes blancs, la catégorie de femmes empêche les féminismes majoritaires d'envisager que la plupart des femmes se construisent et vivent en opposition avec d'autres femmes ou en subissant leur oppression. Des féministes comme Bell Hooks, Patricia Hill Collins, Monty, Ansel Dua, Alarcón, mais aussi Dorothy Allison ou Dorothée Ducey, qui ont pour point commun de réfléchir au fonctionnement de l'oppression à partir d'au moins une imbrication des rapports sociaux de pouvoir, que ce soit de race, de classe, de genre, de nationalité, de sexualité et ou d'âge, sont toutes d'accord pour dire que la violence ou la domination ne vient pas que des hommes en général, mais aussi des femmes. De fait, en raison des rapports sociaux de pouvoir induits par l'existence des différentes catégories sociales de genre, de race, de classe, d'âge, de validité, de nationalité et de sexualité, dans lesquelles chaque femme est prise à la fois individuellement, mais aussi collectivement, dans le cadre de son appartenance à des groupes sociaux qui la dépassent, les femmes en général sont divisées entre elles. Et pour cause, dans l'ordre hiérarchisé et inégalitaire des sociétés capitalistes, néocoloniales et hétéropatriarcales, les femmes n'occupent pas toutes la même place. C'est ce qui pousse la féministe Maxime Molineux à avancer qu'en raison de leur différence de positionnement au sein de ces hiérarchies, les femmes n'ont pas toutes les mêmes intérêts pratiques de genre, dans la mesure où ils reflètent avant tout leurs besoins immédiats. De sorte que, pour Molineux, les intérêts pratiques des femmes les plus pauvres entrent fréquemment en contradiction avec les intérêts stratégiques de genre plus généraux, souvent définis par des féministes bourgeoises. Avec la thématique des intérêts des femmes, on adopte une approche cumulative du pouvoir que Patricia Hill Collins nomme l'approche dialectique, dans laquelle les groupes disposant de plus de pouvoir oppriment ceux qui en ont le moins. Dans ce type d'approche, selon Hill Collins, l'accent est mis sur les injustices sociales qui structurent la formation de groupes sociaux dont les intérêts concurrents les poussent à être en conflit. Dans ce cadre de pensée, les femmes peuvent cumuler des avantages sociaux autres que le genre, qui lui est toujours conçu comme un désavantage, autant qu'elles peuvent cumuler des désavantages sociaux qui les contraignent exponentiellement. Grâce à cette modélisation du pouvoir, on comprend que les femmes qui consentent à opprimer d'autres femmes, directement ou indirectement, le font toujours sur le fondement d'un privilège ou d'un rapport social inégalitaire qui joue en leur faveur. Mais on retrouve aussi en filigrane l'interprétation de Beauvoir par Mélo Lopez, qui veut que les femmes les plus contraintes sont toujours complices malgré elles, tandis que les femmes les plus privilégiées, qui ont toute une panoplie de possibilités ouvertes par leur situation, peuvent faire le choix de la complicité ou non et doivent ainsi être condamnées moralement lorsqu'elles le font. C'est toujours dans ce cadre relativement binaire que Mélo Lopez se sent autorisé à suggérer qu'on peut condamner moralement de jeunes étudiantes des universités états-uniennes privilégiées, dont par ailleurs on ne sait pas grand-chose, au motif qu'en refusant d'affronter le sentiment de malaise que provoque en elles la pratique du sexe oral sans lendemain le jour suivant, elles persévèrent dans leur pratique qui alimente la culture du sexe sans lendemain et participe ainsi à l'oppression d'autres femmes. Face à cette suggestion d'une femme adulte, féministe confirmée et ayant un espace public de parole en tant qu'universitaire, on est en droit de demander « Ici, qui se prépare à participer à l'oppression de qui ?» Car on connaît le sort des jeunes filles à la réputation légère, harcelées dans les contextes scolaires. De sorte que, à nouveau, il semble légitime de souhaiter complexifier une modélisation théorique du pouvoir qui fait implicitement des femmes des classes privilégiées, des sujets indistinctement moins vulnérables à tout type d'oppression. Aussi, je soutiendrai de mon côté que la perspective du consentement des femmes à l'oppression des autres femmes pourrait nous permettre de révisiter l'adage beauvoirien tiré de son épigraphe au tome 2 du deuxième sexe, selon lequel les femmes sont à moitié victimes, à moitié complices, comme tout le monde. De fait, il me semble qu'on peut être en même temps victime de l'oppression hétéropatriarcale et responsable de l'oppression d'une personne qui en est aussi victime en général. Seulement, l'action d'opprimer directement ou par complicité, nous l'avons vu, doit toujours être comprise comme le lieu d'un rapport de pouvoir qui nous est favorable, mais à condition de l'envisager dans le cadre d'une dynamique relationnelle. Prendre acte de cela nous permettra, à mon avis, d'appréhender un nouveau modèle de conceptualisation du pouvoir dans la lignée de celui que propose Hill Collins dans la pensée féministe noire. Ce modèle, héritage de la pensée féministe noire, entend faire marcher ensemble l'approche dialectique ou matérialiste du pouvoir et l'approche disciplinaire ou post-structuraliste du pouvoir. Et c'est en adoptant un paradigme de l'enchevêtrement des oppressions de race, de classe, de sexe, de sexualité et de nationalité, tout en reconnaissant l'agentivité individuelle et collective des femmes à l'intérieur de celles-ci, que ce modèle pourra faire sens pour décrire le fonctionnement réel de la reproduction de l'oppression et comprendre la participation des femmes à l'oppression des autres femmes. Hill Collins nous dit « Parce que l'oppression change continuellement, différents aspects de l'autodéfinition des Noires états-uniennes s'entremêlent et deviennent plus importants. Leur sexe peut être plus important lorsqu'elles deviennent mères, leur race lorsqu'elles cherchent un logement, leur classe lorsqu'elles demandent un prêt, leur orientation sexuelle lorsqu'elles se promènent avec leur amoureuse et leur statut de citoyenne lorsqu'elles postulent à un emploi. De fait, lorsqu'on s'intéresse à un autre des grands impensés du féminisme contemporain, à savoir la domination adulte, on s'aperçoit rapidement que le seul modèle dialectique du pouvoir a des limites. En effet, avec ce modèle, il est malaisé d'envisager qu'une personne occupe simultanément des positionnements de pouvoir différents dans le cadre de situations relationnelles dépassant les rapports sociaux de race, de classe et de genre qui induisent de vastes logiques oppressives collectives. Par exemple, une femme adulte valide, noire et lesbienne des classes populaires, qui est également mère, subit simultanément des oppressions imbriquées liées à sa situation sociale en général dans le monde adulte. Et ces oppressions ont bien sûr un impact sur ses possibilités réelles d'accompagner son enfant et de le protéger. Mais en même temps, de par sa relation de parent à enfant, elle bénéficie d'un certain pouvoir pour empêcher qu'advienne un des modes privilégiés de reproduction de l'oppression hétéropatriarcale, à savoir celui qui se noue dans la relation d'oppression parent-enfant. Car de fait, la relation de pouvoir qui existe entre un parent et son enfant n'implique pas nécessairement que ce dernier subisse de l'oppression de la part du premier. Et ce, en dépit du fait que la matrice du pouvoir inégalitaire entre parents et enfants soit institutionnalisée et systémique. En ce qui nous pousse à réfléchir plus finement au lien entre l'oppression collective et l'oppression individuelle, le problème du consentement des femmes à l'oppression des autres femmes nous permettra d'approfondir la perspective de Léo Thiers-Vidal, qui défend l'idée que l'oppression est toujours un choix de la part de celui qui opprime. En définitive, explorer toujours plus avant le fonctionnement réel de l'oppression hétéropatriarcale et de sa reproduction à la faveur de ce prisme théorique devrait favoriser l'émergence de perspectives féministes d'émancipation qui visent avant tout la justice sociale pour toutes, plutôt qu'elles ne fondent l'indépendance des unes sur l'oppression des autres. C'est ce qu'avec force les féministes intersectionnelles nous invitent à faire.
Lucille Marion va nous parler de refaire famille, comme question, le cas des familles monoparentales. Donc, Lucille, vous êtes capétienne, vous êtes en train de préparer l'agrégation à Nanterre et parallèlement, donc, un projet de thèse sur la famille chez Marx, Engels et les philosophes féministes des années 70.
Alors, le titre de mon intervention est le suivant. La famille monoparentale, deux points, un problème ouvert pour l'État. Donc, il faut mettre problème ouvert pour l'État, entre guillemets, parce que je vais m'appuyer sur ce texte. Donc, c'est mon côté prof de lycée. On va travailler à partir de ce texte-là pour étudier les articulations entre famille et État. La première traduction française de l'ouvrage de Leopoldina Fortunati, L'arcane de la reproduction, femme au foyer, prostituée, ouvrier et capital, par Marie Thirion, publiée l'année dernière aux éditions Entremonde, et 40 ans après la publication originale italienne, répare une réception manquée. Donc c'est ce petit livre rouge que vous avez dû voir dans les librairies l'année dernière. Cet ouvrage s'inscrit dans le contexte du mouvement Wages for Housework, les luttes pour un salaire au travail ménager au tournant des années 70, faisant de la famille le lieu par excellence de la lutte féministe. D'où la nécessité d'en réactualiser le questionnement du point de vue des rapports entre famille et État. La famille nucléaire, organisée sur fond du couple hétérosexuel et ayant une vocation reproductive, a été érigée en modèle dès le 19e siècle, occultant d'autres formes de famille. Comment interpréter la multiplication actuelle des formes de famille, mono, homo, handi, polyparentale, dans les sociétés occidentales ? La multiplicité de formes de famille est-elle le signe d'une destruction par le capitalisme d'une certaine structure familiale ou bien d'une résistance au mode de production capitaliste fondé sur la famille nucléaire ? Donc c'est la question qui va gouverner un peu notre analyse. Il s'agira donc de réinvestir ce questionnement à partir du cas de la famille monoparentale comme problème ouvert pour l'État. Donc c'est la façon dont Leopoldina Fortunati le traite dans cet ouvrage. Ensuite, on va essayer de le contextualiser dans le contexte, donc dans l'histoire des luttes internationales pour un salaire au travail ménager. Et enfin, on insistera sur les difficultés des rapports entre famille et État dans le cadre d'un mode de production capitaliste en pleine métamorphose. Comment est-ce que Leopoldina Fortunati pose cette question du problème ouvert de la famille monoparentale pour l'État ? C'est-à-dire un problème qui est adressé à l'État. Le problème stratégique de l'arcane de la reproduction est de savoir comment inciter les gouvernements à rémunérer le travail domestique et sexuel, exploité gratuitement dans les familles parce que naturalisé, tout en favorisant l'autodétermination des femmes vis-à-vis des hommes et de l'État. Donc il y a une tension qu'il faut tenir ensemble. Plus précisément, comment socialiser le travail reproductif à supposer qu'une partie, le travail domestique immatériel, c'est-à-dire tout ce qui concerne le domaine des sentiments, de la sexualité, serait nécessairement effectué par les femmes au foyer. Ce problème se pose en introduction face au constat de l'impasse du discours sur les services sociaux. Donc, en effet, le travail de reproduction effectué dans les secteurs du service public, des prestations gérées par les organismes privés ou encore du travail domestique salarié se fonde sur le travail réalisé dans la famille. De ce fait, la famille est comme, je cite page 67 de chapitre 2 de la première partie, la colonne vertébrale, le terrain névralgique de l'ensemble du processus de reproduction, c'est-à-dire une structure essentielle mais cachée. La partie 2 s'attache à développer les conséquences liées au statut central de la famille dans le contexte des luttes d'émancipation des années 70. Le foyer est représenté comme un exutoire pour l'ouvrier, donc c'est au chapitre 9, exutoire c'est-à-dire un havre de paix, alors même qu'il est en réalité le lieu par excellence de l'exploitation du travail reproductif. D'où l'image du foyer comme usine atomisée, c'est une expression qu'on trouve au chapitre 10, caractérisé par une division du travail et une coopération insuffisante. Au chapitre 11, la question de la famille monoparentale comme problème ouvert pour l'État s'inscrit précisément dans un développement à propos des transformations de la famille nucléaire, capitaliste et patriarcale. Donc sur le plan formel, c'est-à-dire celui des représentations, la famille monoparentale, et je cite page 252, « une famille qui n'en est pas une ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, pour Fortunati, la famille nucléaire se caractérise en effet par le fait d'être gouvernée par une figure masculine qui représente l'État et qui supervise en fait le travail de l'ouvrière de la maison. Or, sachant que la majorité des familles monoparentales sont dirigées par des femmes seules, alors celles-ci ne sont pas considérées comme des familles au sens strict du point de vue de l'État. Comment l'État peut-il dès lors contrôler le travail reproductif dans la famille monoparentale en l'absence de médiation masculine ? Ce problème est d'autant plus urgent que sur le plan réel, donc non plus celui des expériences, des représentations, pardon, mais celui de l'expérience, toute famille ne subsiste qu'au sein d'un réseau de familles. Or, cette caractéristique même ouvre un immense potentiel d'organisation politique dans le contexte d'une transformation de la famille, je cite page 72 du chapitre 2, une famille qui est désormais bien plus élastique dans le temps, bien plus mobile sur le territoire, bien plus vaste et de moins en moins parentale. D'où le caractère idéologique d'une conception de la famille considérée comme un noyau des rapports individuels qui suffirait à la reproduction. Donc on a montré que l'étude des relations problématiques entre famille et État se situe au niveau même de la tension entre un plan formel, celui des représentations, et un plan réel, celui de l'expérience. Cette tension est-elle le signe d'un problème insoluble que poserait la famille monoparentale à l'État ? En quel sens maintenir ouverte cette tension depuis l'expérience des luttes d'émancipation des années 70 ? Alors là, ça va être ma partie historique où je vais essayer d'interpréter. Donc, dans mon moment historique, je vais essayer d'interpréter ce problème historique que pose la famille, le problème ouvert des familles monoparentales et l'État, en adoptant donc une démarche généalogique. Donc une démarche généalogique, c'est-à-dire que je vais essayer de mettre en avant une forme de conflictualité de pistes historiques, une hétérogénéité de démarches pour faire surgir de nouveaux possibles. Donc de fait, là, je m'appuie explicitement sur le mouvement des femmes noires monoparentales. Donc, puisque c'est effectivement le contexte du collectif féministe international dans lequel Fortunati s'inscrit. Donc là, on quitte un petit peu la dimension francophone, mais je précise qu'il y a des travaux en cours sur les mobilisations des femmes et des mères monoparentales, donc notamment les travaux de l'historienne, enfin doctorante en fait, Chloé Button et Justine Fourgeot, donc sur les femmes lesbiennes monoparentales à propos du QR. Donc c'est des travaux en cours qu'il faudra compléter pour observer cette relation entre famille et État. Au tournant des années 70, la lutte des mères de familles monoparentales contre la coupe des aides familiales fait événement. Elle rouvre d'une façon inédite la question de la socialisation du travail reproductif. Prenons l'exemple du Black Women for Wages, un groupe new-yorkais de femmes noires, chefs de famille monoparentales appartenant au collectif du réseau féministe internationale, formée en avril 1976. La radicalité du positionnement de ce groupe a consisté à tenir ensemble la revendication d'aide familiale dispensée par l'État, tout en maintenant une forme d'indépendance vis-à-vis de l'État. C'est cette tension même, au cœur de la stratégie des familles monoparentales avec et contre l'État, qu'il s'agit de maintenir ouverte. Louise Toupin tâche d'instaurer une continuité entre la première vague du féminisme, marquée par le welfare movement, donc c'est-à-dire les mouvements féministes, notamment qui se sont développés en Angleterre et aux États-Unis, pour lutter justement contre la coupe des aides sociales dans les années 60, et la seconde vague du féminisme. Je fais l'hypothèse que ce moment du tournant des années 70 introduit une véritable discontinuité dans l'histoire du mouvement féministe. Pour comprendre en quoi ce moment fait événement, encore faut-il restituer l'histoire d'un certain rapport entre famille et État en Occident. Sur le plan matériel, l'histoire états-unienne du système des aides sociales, suivant les travaux de Dorothy Roberts dans Killing the Black Body, Race, Reproduction and the Meaning of Liberty, qui n'a pas été traduit, Tuer le corps noir, race, reproduction et la signification de la liberté, manifeste le soutien apporté par les politiques publiques à la famille traditionnelle de la classe moyenne, blanche et hétérosexuelle avec enfants. Dès le début du XXe siècle, des mesures de restriction dans l'accès aux aides sociales, telles l'indexation du salaire familial au salaire masculin, ont eu pour effet d'exclure les familles s'écartant de cette norme. C'est le cas en particulier des familles afro-américaines, les mères chefs de famille étant aussi des travailleuses. Ces familles ont de surcroît été pathologisées sur le plan idéologique et non pas seulement matériel. Patricia Hill Collins établit à ce titre une généalogie des représentations racistes de la Welfare Queen, qu'on pourrait traduire par la reine des allocs, des années 80, à la génitrice pendant l'époque de l'esclavage, en passant par la mère noire assistée sociale. Donc pour le gouvernement états-unien, conservateur et raciste des années 80, l'importance traditionnelle des réseaux sociaux gynocentrés au sein des communautés issues de la diaspora d'Afrique de l'Ouest risquerait de causer la faillite morale et économique de la société. En somme, considérer la lutte des mères noires de familles monoparentales du tournant des années 70 comme un événement permet de contrer leur exclusion matérielle et idéologique de l'histoire. La complexité d'un rapport avec et contre l'État ressurgit. Les aides sociales étatiques, devenant un moyen de contrôle des populations dès les années 90, ont pu, 20 ans auparavant, être perçues comme une préfiguration du salaire donc au travail ménager. En suivant le fil d'une lecture discontinuiste de la lutte des familles monoparentales pour les aides familiales et pour l'autodétermination des mères vis-à-vis des hommes et de l'État, à quelles conditions repenser la socialisation du travail reproductif dans le contexte d'une crise de la reproduction marquée par la privatisation de ce travail? Donc là, ça va être mon moment stratégique. Donc comment on peut repenser le problème de la socialisation du travail reproductif du point de vue d'une articulation problématique entre famille et État? Selon Fortunati, le problème de la socialisation du travail reproductif se pose de deux façons. Donc, page 324, elle pose une alternative que je vais ici expliciter. La première branche de l'alternative réactive la perspective communiste de la prise de pouvoir de l'État par le prolétariat, guidée par l'idéal d'une société sans État ni lutte des classes. Au chapitre 10 de l'Arcane, l'hypothèse d'une planification directe du travail reproductif par l'État est mise en œuvre par la fiction d'une usine de la reproduction, page 220. Donc, il ne s'agit plus ici de la métaphore du foyer comme usine atomisée, mais d'une forme hypothétique d'usine qui produirait le travail nécessaire à la reproduction quotidienne, la cuisine, l'éducation, le soin, et générationnelle, sexualité reproductive, gestation. Une telle proposition conduirait à un contrôle total et immédiat de l'État et serait donc, selon elle, impossible à effectuer. Donc elle évacue cette branche de l'alternative. La seconde branche de l'alternative se fonderait sur le principe de l'autogestion et ouvrirait potentiellement la voie à une société sans État. Or, dans le contexte du processus de privatisation du travail reproductif, elle explique que le développement de coopératives autogestionnaires renforcerait en fait le contrôle du capital et par là même de l'État. Elle souligne ici le risque inéluctable de la récupération de l'autogestion par le capital. On n'a qu'à penser aux entreprises familiales qui mettent en avant des valeurs familiales de coopération, de proximité, d'intimité pour marchandiser en réalité tout un ensemble de valeurs venues de la famille. Donc mon hypothèse est que Fortunati semble refermer la tension qu'elle avait ouverte à propos du rapport des familles avec et contre l'État, identifiant sans reste l'État au capital. En effet, les alternatives de la coopérative autogérée, comme celle de la planification directe, conduisent à l'impasse de l'étatisme, soit sur le mode d'une domination directe de l'État sur la famille, soit sur le mode d'une récupération insidieuse du travail reproductif par le capital. Au fond, la conception nucléaire de la famille, sur le mode d'un tout privé et autotélique, est toujours présupposée. Donc comment repenser la sphère reproductive sans familialisme? Considérer la famille comme étant le fondement de la société empêcherait en effet d'imaginer des formes multiples et collectives de reproduction sociale. Kate Dorr Griffiths et Jules John Gleason, dans Kinderkommunismus, une proposition communiste d'abolition de la famille, dénoncent une idéologie familialiste qui serait caractérisée par les institutions du mariage, de l'hétérosexualité obligatoire et de la complémentarité des sexes. Elle lui oppose la représentation d'une, je cite, « institution contrafamiliale, active, absolument antidyadique, émancipatrice, unifiant, pédagogique, formatrice, pastorale, globale, convaincante, révolutionnaire, centrée sur la nécessité d'apporter un soin inconditionnel aux enfants. » En définitive, on s'était demandé si la famille par rapport à l'État était un lieu d'exploitation ou bien un lieu de résistance au mode de production capitaliste. Or, poser ce problème du point de vue des transformations contemporaines de la famille, et plus précisément du cas de la famille monoparentale, nous a conduit à reconsidérer le statut nécessairement ambivalent de la famille, donc de cette notion de famille, tendue entre un plan formel et un plan réel. Deux enjeux se posent alors. Sur le plan théorique, il y a un intérêt à repenser le statut de la famille par rapport aux autres institutions afin de redéfinir la notion englobante de sphère de la reproduction. Et enfin, sur le plan stratégique, dans le contexte de la destruction de l'État social, il s'agirait de réinvestir le problème de la socialisation du travail reproductif suivant des modes collectifs de coopération et d'organisation sans reconduire le modèle de la famille nucléaire.
Donc, j'en profite donc des dernières manipulations donc pour présenter Anastasia Costan, donc qui va nous parler d'intelligence artificielle tirée intelligence masculine point d'interrogation, la violence épistémique de la reconnaissance IA. Anastasia, vous avez un double cursus ou une double vie, je ne sais pas. Vous êtes à la fois enseignante chercheuse au département d'informatique à l'université de Paderborn, hein, où vous travaillez dans le domaine de l'interaction humain-machine, et en même temps, donc, vous êtes en thèse de philosophie et sociologie, donc à Francfort am Main, où vous travaillez sur le féminisme néo-matérialiste, pour faire vite. Donc voilà, on va vous écouter. Merci beaucoup.
Ben, merci. Ça va être un peu dur de continuer maintenant, mais j'espère que ça va le faire quand même. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués parce que j'ai amené une PowerPoint qui est en anglais. Mais la bonne nouvelle, c'est que la présentation elle est super courte, donc ça va. Alors, merci aussi de ma part pour l'opportunité de pouvoir intervenir ici à ce congrès magnifique. Et aujourd'hui, je veux parler de l'injustice et de la violence épistémique des technologies nouvelles, notamment des technologies qu'on appelle intelligence artificielle. Alors voilà, ça commence avec l'anglais. Dernièrement, on a vu un développement extrêmement rapide, non seulement les domaines d'infrastructures critiques, mais aussi beaucoup de services du quotidien ont progressivement implémenté les outils IA. Ces outils décident de plus en plus souvent et de plus en plus sans supervision humaine, si on peut obtenir un emploi spécifique, si on a droit à un crédit ou à l'aide sociale. Même le prix d'un billet d'avion est déterminé par une intelligence artificielle qui saura bien avant nous combien on est prêt de payer pour notre voyage. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle fait référence à la simulation de processus de l'intelligence humaine par les systèmes informatiques. Ces types de systèmes utilisent des algorithmes et la puissance de calcul pour effectuer des tâches qui nécessitent normalement une intelligence humaine, comme la reconnaissance et la prise de décision, qui est maintenant automatisée. Donc, on a besoin de pouvoir faire confiance à ces opérations, qu'ces opérations sont entre guillemets cognitives, et on a besoin de faire confiance qu'elles soient généralement objectives. Hein. Et en effet, les entreprises de ces technologies se vantent leurs programmes avec tels attributs de neutralité, d'objectivité, de prise de décision extrêmement puissants. Et en plus, ils exagèrent un peu, ils les décrivent comme un produit au potentiel infini. Ils légitiment aussi l'utilisation IA avec des promesses de salut qui rendent le monde plus égalitaire, plus démocratisé. L'intelligence artificielle doit aider à toute l'humanité à aller mieux, comme ici on voit de l'affiche du site web du OpenAI. Donc voilà, mais il est toutefois frappant de constater qu'il y a beaucoup d'écarts entre les promesses de sauvetage et les multiples problèmes, parfois très graves, qui accompagnent l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce qu'il s'agit des questions d'objectivité et de neutralité qui cachent ces injustices parfois très graves et désastreuses, j'aimerais proposer de regarder l'IA comme une structure de violence épistémique, comme l'appellent Miranda Fricker et José Medina, qui non seulement se basent sur les rapports de domination actuels, mais qui les amplifie et qui les élargit encore. J'aimerais maintenant brièvement mettre en avant trois aspects de violence épistémique de l'intelligence artificielle, notamment de le capitalisme racial dans la production, les effets sexistes et racistes de l'IA générative et une criminalisation raciste qui se cache derrière les prémices et des présuppositions qui accompagnent l'intelligence artificielle. Alors que l'intelligence artificielle est souvent représentée comme quelque chose d'immatériel, comme un nuage des données et des calculs magiques, en réalité, l'IA a des énormes implications matérielles, non seulement liées à sa consommation d'énergie et de l'eau, ou bien à l'extraction des minéraux, mais aussi liées aux conditions de travail qui se forment de manière du capitalisme racial. Les algorithmes sont automatisés et intelligents qu'en apparence, hein. Derrière, il y a des milliers et milliers de travailleurs qui font fonctionner le numérique et leurs conditions de travail sont atroces. Comme les systèmes d'IA ont besoin de grandes quantités de données d'apprentissage qui sont déjà étiquetées pour en tirer des corrélations et des modèles, il faut leur aider à entre guillemets, apprendre de faire ça. Ce travail est tellement important que normalement, il devrait être beaucoup plus valorisé, mais enfin, comme vous pouvez vous imaginer, au lieu de ça, les entreprises comme Clickworker, Amazon Mechanical Turk, SEMA, ils économisent délibérément des coûts de ce travail cognitif et le rationalisent gravement en le sous-traitant aux femmes, soit aux travailleurs précaires, très souvent dans le dit sud global. Les tâches de ces travailleurs consistent notamment à étiqueter et à classer des vastes nombres de données. Ils enregistrent des phrases courtes, hein, ils modèrent le contenu, ou bien elle transcrit des données audio. Généralement, ces tâches sont plutôt banales, mais elles sont extrêmement nécessaires. Hein, quand même, les travailleurs n'ont aucun contrat de travail officiel. Ils ne profitent ni d'indemnité de maladie, ni de congés payés ou d'assurance maladie, de la pension ou du salaire minimum du pays dans lequel ils résident. Ils sont plutôt payés à la pièce. Et les tâches peuvent ne durer qu'une minute, ce que veut dire que la rémunération peut être que de quelques centimes pour une tâche. Les travailleurs sont souvent payés en fonction de leur rendement et non du temps qu'ils consacrent à une tâche en plus, ce qui signifie que la plupart des travailleurs doivent acquérir le plus grand nombre de tâches possibles, ce qui est stressant, hein, vous pouvez vous imaginer. Donc, toutes ces conditions-là conduisent au surmenage, à l'anxiété, à la dépression, à l'isolement social et au manque du sommeil. Et entre autres, particulièrement, les modérateurs du contenu sont constamment exposés à des contenus horribles qu'ils doivent filtrer, qu'ils doivent les classer. Ça les laisse avec un traumatisme psychologique qui est insuffisamment... Ils ne sont pas soutenus d'un mode thérapeutiquement de part de leur employeur. Deuxièmement, il y a un grand écart entre les prétentions de la neutralité et de l'intelligence artificielle et des résultats sexistes et racistes qu'elle produit. Alors qu'on a souvent l'imagination que les données elles-mêmes sont plus ou moins neutres, hein, alors qu'on a déjà dit aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas, ce qui est normal, mais très très souvent, on a les discours autour de l'IA qui disent que voilà, d'une manière neutre, on collecte des données et après, les logiciels hyper intelligents, ils apprennent. Mais ce n'est pas du tout comme ça parce que il est très, très important quelles données sont sélectées, comment elles sont sélectées, comment elles sont préparées, comment elles sont assemblées pour que les IA puissent en tirer des apprentissages automatisés. Comme très souvent, les types de... Oh non. Pas encore. Une minute. Comme très souvent, le type de données d'apprentissage est sélectionné seulement en fonction d'accessibilité pour les entreprises en question. La plupart des données d'apprentissage est collectée en Europe et aux États-Unis, ce qui déjà donne suite à un énorme déséquilibre représentatif. Mais aussi, la qualité des données est souvent douteuse. Hein. Comme on voit par exemple avec le logiciel Stable Diffusion, qui produira une image sur la base d'un destruction textuelle, le fait que l'Internet est rempli des images des femmes, soit pornographiques, soit des images d'actrices hollywoodiennes, cette IA générera au plus souvent une femme jeune, nue ou soi-disant sexy, justement si on tape le mot « femme ». On voit ici un exemple pour le mot-clé « femme » du stockage d'images Adobe, alors un service assez sérieux, hein, qui mène directement au classement de femmes jolies, et en plus, elle est nue et on voit presque ses seins. Donc, un truc hyper officiel, je ne sais pas pourquoi il faut avoir ces images. Ou bien ici, comme on peut voir ces images créées par l'outil Crayon, ce qui est un service gratuit et open source qui a été entraîné à partir des données non filtrées provenant de l'Internet. Et ici, le mot-clé aussi, c'est uniquement femme. Et ça donne des images des femmes hein, aussi nues et hyper sexualisées, comme vous pouvez voir par exemple. Elle a un truc sur la tête et on ne comprend pas ce que c'est. Ça a l'air d'une liquide qui coule. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est trop bizarre, j'ai tapé ça enfin, il y a deux jours. C'est des femmes, quoi, normal. Bon. Entre autres, pour générer des images des personnes moyennes dans le monde professionnel, une IA générative reproduira la répartition sexiste et raciste en domaine d'activité. Si on demande une IA de créer les images des embauchés, les emplois bien payés et reconnus sont occupés par des hommes blancs, comme on peut voir ici. Et une fois qu'il s'agit du personnel du ménage, on a directement des images associées avec des femmes et des personnes racialisées. Ce qui est drôle ici, je trouve que le seul qui rigole pas, c'est le juge. Mais on voit alors que l'IA reproduira et rendra même plus fort les stéréotypes qu'elle va trouver dans les données d'apprentissage. Et ça ne se termine qu'avec les images. Hein. Aussi, les logiciels bancaires à la base de l'intelligence artificielle comme Apple Card discriminent manifestement les femmes qui sont évaluées comme moins solvables que les hommes. Aussi, il y avait un scandale aux Pays-Bas où l'administration fiscale récemment a réclamé à tort des parents étrangers des remboursements à allocations familiales si élevés qui ont mené ces familles-là à ruine. Donc, ce n'est pas que des images bizarres, mais c'est vraiment sérieux. En Autriche, actuellement, un logiciel classe des demandeurs d'emploi en groupe auquel des chances d'embauche sont élevées, moyennes ou faibles, pour ne plus investir des coûts dans les cas un peu moins prometteurs. Malheureusement, ce sont toujours des mères célibataires, des gens plus âgés et les étrangers qui sont considérés comme plus exposés au chômage et ils sont donc moins bien classés par le système de décision algorithmique. Le troisième et dernier point que je veux aborder, c'est qu'il y a un grand décalage entre l'objectivité souhaitée et les résultats racistes, des fois extrêmement graves, qui sont créés par l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, il y a eu à plusieurs reprises des cas de fausses arrestations de personnes racialisées. Plusieurs personnes, dont une femme enceinte, ont été faussement identifiées par les logiciels de reconnaissance faciale comme des criminels recherchés. La seule chose que les personnes arrêtées avaient en commun avec des personnes recherchées était uniquement leur couleur de peau. Oui, c'est ça. Ici, il y a deux raisons. Comme en comparaison avec des personnes blanches, les personnes racialisées sont arrêtées beaucoup plus rapidement et régulièrement, même pour les délits mineurs. Il y a beaucoup plus d'images et d'autres types de données donc, qui sont enregistrées dans les bases de données policières. Un problème, surtout aux États-Unis, j'imagine qu'en France c'est un peu pareil, mais en Allemagne en tout cas c'est comme ça aussi. Un problème supplémentaire est que les logiciels de reconnaissance faciale fonctionnent bien uniquement avec des personnes blanches, mais ont du mal à discerner une personne qui n'est pas blanche d'une autre. Imaginez ça à la police, quoi. Enfin, il est donc assez probable qu'une personne racialisée qui est, par exemple, accidentellement filmée par une sonnette vidéo soit classée comme des suspects à tort. Et ces sonnettes filment beaucoup de rues américaines, car ils sont de plus en plus répandus dans les foyers, et le matériel vidéo va souvent directement au logiciel de la police, souvent même sans l'accord des propriétaires. D'autres fois, la police coopère ouvertement avec des fournisseurs comme Amazon Ring, et en offrant ces petites sonnettes gratuitement aux citoyens. Donc, nous voyons que les discriminations numériques varient en complexité, Mais ce qu'on peut dire pour tous ces cas justement présentés, c'est que les technologies de décision automatisées ont appris les préjugés existants et maintenant ils les imposent comme une sorte de normalité et, qui est considérée d'être vraie et neutre. Malheureusement, il est extrêmement difficile d'aborder les injustices qui se cachent derrière ces normalités mises en place par les systèmes IA, parce que les processus exacts et types de données avec lesquels ces systèmes apprennent sont fortement intransparents, souvent cachés comme genre de secret entrepreneurial. Mais il y a des discussions de le rendre plus transparent, mais on ne sait pas à quoi ça va mener, si ça va vraiment rendre la chose mieux ou pas. Oui, c'est super impersonnel. On peut porter plainte contre les algorithmes, mais c'est très, très rare. Et c'est à qui se rendre, quoi. Du coup, c'est n'après que des années de travail que les activistes ont rendu visibles ces inégalités numériques et qu'on en prenne conscience dans les débats publics maintenant. Et je trouve que nous, qui pratiquons la philosophie féministe, si on veut l'appeler comme ça ou pas, et je trouve qu'on devrait aborder ce sujet et parce que il y a probablement beaucoup de différentes manières de faire ça, mais en tout cas, c'est important de nos jours de s'éloigner de toute l'idée d'objectivité de l'intelligence artificielle, de la neutralité de données et au lieu de ça, on doit voir sa performance soi-disant cognitive d'objectivation, de neutralisation, plutôt comme une activité d'injustice et de violence épistémique assez puissante. Ouais. Voilà. On fera alors bien de comprendre un peu plus en détail comment l'intelligence artificielle fonctionne, quels savoirs, objectivité et normalité elles produisent, de quelle façon et qui en profite et qui en souffre. Aussi pour ne pas laisser le terrain uniquement aux compagnies du Big Tech qui travaillent très très dur pour éviter toute réglementation extérieure pour garder leur pourvoir discursif et décisionnel, notamment en intervenant dans le débat public comme on a vu ce week-end avec Sam Altman.